Les séminaires du Collège de France.
Donc je disais, comme à chaque fois, on ne prend pas de questions maintenant. Il y a un séminaire qui va commencer là vraiment dans une minute ou deux par Masa Kageyama. Et on prendra des questions sur nos deux exposés en suivant son séminaire. Donc je vois qu'elle est prête, c'est parfait. Masa, en fait, c'est un chercheur qui travaille dans le même laboratoire que moi. Simplement, là où moi je suis plutôt spécialisé pour les observations spatiales, Masa est vraiment une spécialiste de la modélisation. En fait, Masa est ingénieur de l'école centrale. Elle a fait une thèse qui était à moitié en France, à moitié à l'université de Cambridge aux États-Unis. Ensuite, elle est venue faire un post-doc à nouveau au LMCE, hein, au laboratoire qui est situé sur le plateau de Saclay. Et puis, elle a été recrutée au CNRS en suivant dans ce laboratoire. Et donc, Masa est vraiment une spécialiste de la modélisation du climat. Et en fait, aujourd'hui, elle dirige, enfin, ou elle co-dirige, justement, les développements des modèles de climat qui sont faits pour comprendre, justement, pour comprendre l'évolution du climat, aussi bien les climats d'aujourd'hui que les climats du passé. Et donc, en particulier, en fait, il y a une nouvelle initiative un petit peu de développement de cette modélisation en France, une initiative qui s'appelle TRAX, et Masa est une des co-organisatrices de ce programme de recherche. Donc, elle est parfaitement compétente pour vous parler de modélisation. Et donc, tu vas parler, je crois, sur justement à quoi servent les modèles pour la société. Merci beaucoup.
Merci François-Marie pour l'introduction. Alors j'ai fait en fait des études à Cambridge, mais en Angleterre, pas aux États-Unis. Non, t'as dit Royaume-Uni, t'es sûr? C'est pas très grave. Donc moi je suis paléoclimatologue et je suis modélisatrice aussi. Donc tu as parlé de climatologie, donc c'est une excellente introduction à ce séminaire. Et donc, de quoi est-ce que je vais parler? Je vais vous faire une introduction qui sera assez longue sur ce qu'on attend des modèles, ce qu'on a attendu et ce qu'on attend maintenant des modèles. Et puis, je vais rentrer un peu plus en détail sur ce qu'il y a à l'intérieur des modèles pour comprendre et anticiper le changement climatique. Et j'aurai une dernière partie sur la révolution en cours, sur ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer ces prochaines années. On est à un point de rupture en modélisation du climat. Je profitais de ce séminaire pour vous en faire part. Alors, en guise d'introduction, je vais repartir de la frise sur le changement climatique sur les derniers 60 millions d'années. Donc François-Marie vous a montré les derniers 10 000 ans. Donc c'est tout à droite sur cette... ici sur cette courbe-là. Alors vous avez ici, ça c'est une figure qui est issue du rapport de l'IPCC qui est assez complexe. Alors je vais vous guider petit à petit. Donc ici vous avez en haut les mesures et les reconstructions du CO2 dans l'atmosphère. Et vous avez des échelles de temps qui varient suivant la période de temps. Donc ici on est à l'actuel. Vous avez les scénarios pour le futur ici, j'en parlerai plus tard. On va remonter dans le temps pour l'instant, sur des milliers d'années au début, puis des millions d'années, et encore un changement d'échelle jusqu'à 60 millions d'années. Et ce que vous voyez ici, alors François-Marie vous a parlé de toute petite période qui est par là, là. Il vous a aussi parlé de la dernière déglaciation, c'est depuis le dernier maximum glaciaire ici jusqu'à maintenant. En termes de température moyenne globale à la surface de la Terre, c'est la deuxième courbe ici, vous voyez que le changement en CO2 correspond à une hausse de la moyenne globale de température de 5 à 7 degrés, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Vous voyez aussi que si on remonte dans le temps, on a ces cycles glaciaires-interglaciaires en termes de température, mais aussi en termes de CO2. Si on remonte encore plus dans le temps, ces cycles glaciaires-interglaciaires disparaissent. On est à la période du Pliocène moyen, c'est la période de construction de la calotte groenlandaise. Et puis si on remonte encore plus dans le temps, on a les climats très chauds dont François-Marie a parlé brièvement tout à l'heure, comme celui de l'Éocène, où on n'avait plus de glace pérenne, donc plus de calotte glaciaire, à la surface de la Terre. Donc ça, ces courbes-là sont issues de reconstructions ou de mesures pour ce qui est la partie passée. Les cartes que vous voyez là montrent des résultats de modèles pour ces périodes, pour des périodes clés, début de l'Éocène, Pliocène moyen, et puis l'année 2020, ça ce sont plutôt des observations, et ensuite vous avez des scénarios. Donc, modèles et données se tiennent la main. Et je vais vous. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi sur cette diapositive, c'est que ces climats qui ont varié dans le passé, ben, ce sont autant de tests pour notre compréhension du système climatique. Et donc, les questions qu'on se pose quand on est paléoclimatologue ou climatologue tout court, hein, c'est vraiment est-ce qu'on sait comprendre ces changements ? Est-ce qu'on a les connaissances physiques et biogéochimiques pour comprendre ces changements qui sont observés, reconstruits ? Deuxième question, qui est une ramification de la première, c'est est-ce qu'on sait les représenter à l'aide d'outils numériques ? On voit effectivement l'intérêt d'outils numériques pour comprendre ou anticiper les futurs climats, mais est-ce qu'on sait utiliser des outils numériques déjà pour comprendre des climats du passé ? Et puis, voilà, donc la troisième question, est-ce qu'on sait représenter ces changements climatiques à l'aide des outils numériques utilisés pour calculer le climat futur en fonction des scénarios socio-économiques ? Alors, de quoi est-ce qu'on parle ? De quoi est-ce qu'on parle ? Quels sont les fondements qui sont dans les modèles ? Quelles sont ces bases physiques et biogéochimiques de nos modèles ? Alors, premier fondement, donc on a tout un tas de lois de la physique, vous êtes certainement aussi au courant que moi. Donc pour l'atmosphère, évidemment, l'atmosphère est un ensemble de gaz auquel s'applique la loi des gaz parfaits. Celle-là, on la connaît depuis le lycée. On sait que voilà, c'est du solide. On a aussi des lois qui sont en physique relativement qui sont universelles, hein, des lois de conservation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie, la quantité de mouvement, l'eau, les éléments chimiques sont conservés dans notre système climatique. Atmosphère, océan, surface continentale, cryosphère. Et puis, on a évidemment l'attraction terrestre qui fait que l'atmosphère est stratifiée. Comme tu l'as montré aussi tout à l'heure, elle s'organise en grandes couches. 90% de l'atmosphère est dans les premiers 10 à 20 km au-dessus de la surface, ce qui fait que par rapport au rayon de la Terre, l'atmosphère est une couche très mince par rapport au rayon de la Terre, donc 10 à 20 km pour la troposphère, par rapport aux 6400 km de la Terre. Alors l'atmosphère s'organise en couches, en différentes couches. Donc, on va ici s'intéresser pour ce séminaire à la troposphère et un petit peu à la stratosphère qui sont représentées dans nos modèles. Donc là où se concentre la majeure partie de la masse de l'atmosphère et où on a les phénomènes météorologiques et climatologiques qu'il est intéressant de représenter. Mais pour notre gouverne, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans nos modèles, donc des lois de la physique. Et on va prendre en compte le fait que l'atmosphère est une couche mince par rapport au rayon de la Terre. Alors, on va un peu plus loin dans les lois de la physique. Tu as fait le cours déjà sur l'effet de serre. Voilà. Donc, on connaît les bases sur l'effet de serre. Alors, il y a des choses qui sont moins bien connues, l'interaction entre nuages, rayonnement et nuages. On voit bien que les nuages sont très difficiles à représenter. Mais on a des connaissances suffisantes pour à la fois représenter le rayonnement dans le domaine du visible, donc ce qu'on appelle le domaine solaire, et puis le rayonnement dans le domaine infrarouge, et ça c'est très important puisqu'on doit représenter l'impact des gaz à effet de serre sur la température de notre atmosphère. Donc ça va être la deuxième série de lois de la physique qu'on va représenter dans les modèles. L'autre ingrédient, c'est évidemment la mécanique des fluides. Alors ici, il faut se rappeler une chose, c'est que le moteur de la circulation atmosphérique et de la circulation océanique, c'est le fait que le rayonnement solaire reçu dans les régions tropicales par unité de surface est beaucoup plus fort que le rayonnement solaire reçu par unité de surface au pôle. Il en résulte un gradient de température, d'énergie reçue et de température entre l'équateur et les pôles, gradient qui est sans cesse maintenu par le fait que la Terre soit sphérique. Ce gradient, en fait, va être le moteur de la circulation atmosphérique, puis de la circulation océanique en dessous de l'atmosphère. Donc, je vous ai mis ici le moteur, le résultat. On peut calculer donc, le rôle de l'atmosphère et de l'océan à la surface de la Terre, c'est de transporter de la chaleur de l'équateur vers les pôles. Donc ce transport peut se calculer à l'aide des lois de la mécanique des fluides appliquées à une couche mince, c'est pour ça que j'ai insisté sur la couche mince tout à l'heure. Pour une sphère en rotation, c'est un petit peu compliqué de dériver les équations, mais ça se fait sans trop de soucis. Le résultat, c'est quoi? C'est ce transport atmosphérique qui s'organise différemment suivant les latitudes. Vous avez ici une coupe, une représentation 3D d'un quartier de la Terre avec l'atmosphère par-dessus. Au niveau des tropiques, au niveau des endroits les plus chauds à la surface de la Terre, on a des ascendances d'air, donc de l'air monte, donc dans les grands cumulonimbus qu'on a nous parfois dans les orages, mais qui se trouvent particulièrement abondants dans la zone de convergence intertropicale, cette zone très chaude. Donc on a des ascendances. La tropopause, qui est entre la troposphère et la stratosphère, agit comme un couvercle, et l'air arrivé au niveau de la tropopause va aller soit vers le nord, soit vers le sud, en fonction de la saison. Donc vous avez des vents qui vont ici dans les tropiques. Et puis, au niveau des subtropiques, vous avez une subsidence, donc l'air descend. Il est à ce moment-là extrêmement sec parce qu'il s'est débarrassé de l'humidité au moment des ascendances. Il pleut énormément dans ces régions-là. Air très sec, vous êtes ici au-dessus des endroits les plus secs de la Terre, le désert du Sahara, les déserts australiens, etc. Et puis vous avez la boucle inverse, ce sont les alizés, qui sont bien connus des navigateurs. Donc première cellule, ici, qui s'appelle la cellule de Hadley, et qui est une des premières manières pour l'atmosphère de transporter de l'énergie de l'équateur vers les pôles. Alors qu'est-ce qui se passe au subtropique? En fait, l'influence de la rotation de la Terre devient de plus en plus importante, elle devient de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on va vers les pôles. Et au niveau des subtropiques, on a la création du courant G subtropical, les vents les plus forts dans notre troposphère, des vents d'ouest que les navigateurs aériens aiment bien prendre pour éviter de consommer trop de carburant. Et puis au-dessus de ça, vous avez une circulation très perturbée, comme ce qu'on a aujourd'hui, enfin entre hier et aujourd'hui, vous avez vu la différence de météo, avec une alternance de dépression et d'anticyclone, donc ces alternances-là, qui vont transporter de la chaleur vers les pôles quand il s'agit d'air chaud qui va aller du sud vers le nord, ou de l'air froid du nord vers le sud. Et ça participe au grand transport de chaleur de l'équateur vers les pôles, qui explique notre climat et notre météorologie. Alors, dans cette histoire-là, je vous ai parlé de différences de température et d'énergie reçue entre l'équateur et les pôles. On voit bien ici qu'on va avoir besoin, pour calculer la circulation, le vent, en un point, on doit connaître l'état des points voisins. Et donc, nos modèles vont par essence être globaux, puisqu'on a toujours besoin de savoir l'état du voisin, et de loin en loin, on va devoir représenter la circulation, l'énergie et l'humidité à la surface de la Terre dans l'atmosphère, sur le globe entier. Alors, ça s'est fait, donc toutes ces connaissances-là sont rassemblées dans des modèles de circulation générale atmosphérique. Donc circulation, pourquoi? Parce qu'on représente les vents, ils sont représentés ici par des petites flèches. Ici, c'est un schéma du modèle du laboratoire de météorologie dynamique développé non loin d'ici. Et puis, donc vous avez ici un cœur dynamique qui va représenter la dynamique des fluides. Et puis dans chaque colonne, on va calculer le rayonnement et tous les phénomènes physiques qui se passe sur cette colonne, en particulier la formation de nuages, la précipitation, les échanges de chaleur, de température, etc., etc. Donc le modèle, on peut le voir ici, comme un assemblage de ces colonnes verticales. Et pour calculer les vents qui sont en majorité horizontaux, et bien on a besoin de calculer les gradients entre ces différentes colonnes. Et pour ce faire, on utilise des supercalculateurs, parmi les plus gros calculateurs de la planète. Mais on peut le faire. On couple également, donc ça c'était la partie atmosphérique, c'est ce type de modèle qui est utilisé pour les prévisions météo, en les initialisant, en partant, en leur donnant le point de départ, comme point de départ la connaissance de l'atmosphère qu'on a actuellement. Pour le climat, on calcule un enchaînement de situations météorologiques sur des dizaines et des centaines d'années. Et là, l'interaction avec les composantes plus lentes du système climatique est importante. Et donc, on couple ces modèles de circulation atmosphérique avec des modèles de circulation océanique. Donc, on a le même principe pour l'océan. On va calculer les courants et les caractéristiques de l'océan, température et salinité, sur une grille. Et puis, ces modèles vont être couplés, c'est-à-dire qu'ils vont se donner des informations l'un à l'autre. Le modèle d'océan va donner comme information à l'atmosphère la température de surface, la couverture de glace, et puis l'atmosphère va donner à l'océan le bilan en eau, pour précipitation moins évaporation, la quantité de mouvement qui entraîne l'océan, donc la vitesse de l'air qui entraîne l'océan, etc., etc. Et de loin en loin, on va essayer de représenter les rétroactions importantes dans le système climatique. Et là, il y a un choix de modélisateur. Hein. C'est difficile de tout représenter. On n'a peut-être même pas intérêt à ce que tout soit représenté. On doit représenter les phénomènes qui sont importants pour la question qu'on se pose sur le changement climatique. Donc, par exemple, expliquer ce qui se passe sur les 100 dernières années ou sur les, pour ce qui me concerne, 20 000 dernières années. Alors, je vous ai montré ici les modèles les plus complexes qu'on développe actuellement, mais je voulais pointer ici le rôle important dans notre compréhension du système climatique de modèles conceptuels ou de modèles simples. Ce qu'on appelle modèles simples, ils ne sont pas toujours simples, hein, mais ils sont simples à faire tourner, mais ils ne sont pas forcément simples à concevoir. Avec ici un modèle qui est très fameux, en fait, le modèle de Stommel, qui a été publié en 1961, qui décrit une partie de la circulation océanique à travers une représentation très simple. On considère deux boîtes, l'océan selon deux boîtes, une boîte à l'équateur, une boîte au pôle, qui ont chacune leur température et leur salinité. Et puis on cherche à voir quels sont les échanges, quelle est la circulation entre ces deux boîtes. Et en fait, en faisant des calculs relativement simples, on peut montrer que ce flux M est proportionnel à la différence de densité entre ces deux boîtes, ce qui est noté ici. Alors, c'était en fait assez révolutionnaire hein, de développer un modèle comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce modèle-là, il montre des bifurcations abruptes de la circulation océanique. C'est ce qui est montré ici, dans un papier plus tard, dans le papier de Stefan Ramsdorf, qui examine, en fonction d'un flux d'eau douce qui va modifier la salinité, l'intensité du flux M. Ici, là, on parle de North Atlantic Deepwater Formation. Donc c'est le flux ici, j'aurais dû le noter M, si je voulais être cohérente avec la figure de gauche. Vous avez ici le résultat du modèle simple, en pointillé, en fonction du flux d'eau douce qu'on impose dans cette boîte. Et donc, si on part de là, par exemple, on a une circulation qui est active. Le sphere drop, c'est un débit d'eau dans l'océan. C'est 1 million de mètres cubes d'eau par seconde, transportée par l'océan. Vous partez ici, vous avez une circulation active, et puis vous rajoutez un flux d'eau douce, petit à petit, cette circulation va être de moins en moins active jusqu'à tomber sur zéro. Et déjà, d'une part, on n'a pas un comportement de manière inverse quand on réaugmente, quand on fait le chemin inverse en termes de flux d'eau douce. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si on applique un flux d'eau douce négatif cette fois-ci pour revenir à la situation, première, ben, on a cette fois-ci un comportement abrupt, un redémarrage abrupt de cette circulation vers une circulation active. Et ça, on va dire, ouais, c'est qu'un modèle simple, peut-être que c'est pas vrai. Alors, ça peut être reproduit en utilisant beaucoup plus de ressources de calcul avec un modèle de circulation océanique globale, ce qui est montré ici en trait plein. Et puis surtout, c'est une des explications des changements climatiques abrupts en période glaciaire, où on a des changements climatiques sur des périodes extrêmement courtes, quelques décennies, les spécialistes ont aussi reconstruit les changements de circulation océanique et ont montré qu'on a des changements de circulation océanique concomitants à des changements de température, par exemple au Groenland ou en Atlantique Nord. Donc les modèles conceptuels sont très importants pour envisager ces ruptures, ces points de rupture, ces points de bascule dans notre système climatique. Alors je vais revenir aux modèles complexes. Je vais montrer un exemple d'application qui est l'attribution du changement climatique récent. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une figure où il y a pas mal de courbes, donc on va y aller doucement, j'ai perdu mon pointeur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est toujours en termes d'anomalie par rapport à la période 1850-1900, les observations, la température moyenne globale de l'air à la surface. Donc vous avez ici une période relativement stable, un premier réchauffement, une stabilisation, et puis le deuxième réchauffement dont vous a parlé François-Marie dans son cours. Donc ça, ce sont les observations. Première question, est-ce qu'on est capable de les reproduire avec les modèles? Alors, la première chose, c'est qu'on va essayer de mettre tous les forçages, toutes les choses qu'on connaît, on va les donner au modèle pour voir si on reproduit ce réchauffement. Donc on va parler de forçage naturel, donc tout ce qui est éruption volcanique, par exemple, variation de l'intensité solaire, et puis les augmentations des gaz à effet de serre, l'augmentation des aérosols, et tout ce qui est donc émission anthropique et forçage naturel, qui sont les courbes jaunes. Alors, vous voyez, pour chaque courbe ici en couleur, jaune, vert, gris et bleu, vous voyez, donc ce sont les résultats des modèles globaux, mondiaux, tels que synthétisés dans le dernier rapport de l'IPCC. Et ce que vous voyez pour chaque courbe, c'est que vous avez la moyenne des modèles au milieu, et puis vous avez un éventail de résultats autour. Ça, c'est lié au fait qu'on a une variabilité interannuelle, mais aussi qu'on a des modèles différents, d'accord ? Donc ici, on va s'intéresser à la courbe jaune. Donc, la courbe jaune, vous voyez, on n'est quand même pas trop mauvais pour reproduire le signal des 150 dernières années. Les observations tombent grosso modo à l'intérieur de cette enveloppe jaune qui résulte de la connaissance de tous les modèles à l'échelle globale. Et alors, ce qui est intéressant, donc ça c'est plutôt satisfaisant quand même, sur la capacité de nos modèles à représenter ça. Alors, une première étape, c'est de se dire, ah oui, mais alors, maintenant, c'est bon, on peut regarder quel est l'impact, on peut comparer cette courbe où on a mis les émissions anthropiques et les émissions naturelles à une courbe où on n'aurait que les variations naturelles. Ça, c'est la courbe qui est en vert, qui est ici. Et vous voyez qu'à partir des années 70, les deux enveloppes, peut-être un peu plus tard, les deux enveloppes orange et verte sont complètement distinctes. Et là, on peut vraiment dire, les émissions anthropiques, l'impact de l'homme sur le climat, est bien ce qui a fait diverger ces courbes, puisqu'on a réussi à montrer, on a la référence qui serait les changements naturels du climat sans intervention de l'homme, et la simulation perturbée, qui est l'orange, et qui sort de la variabilité naturelle et des incertitudes liées au modèle à la fin du cycle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'attribution du changement climatique aux activités humaines. On peut aller un petit peu plus loin et examiner l'impact des gaz à effet de serre seuls, et puis l'impact des aérosols. Donc vous avez ici l'impact des gaz à effet de serre, et vous voyez que cet impact est supérieur, donc sans les aérosols, autrement dit, on aurait un réchauffement qui serait plus fort que ce qui a été observé. Et pourquoi ? Parce que les aérosols, alors il y a énormément d'aérosols différents, mais pris ensemble, les aérosols ont un effet refroidissant. Et donc ça retombe exactement sur ce que disait François-Marie un peu plus tôt. Hein. Les aérosols ont un effet qui contrebalance celui des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une utilisation des modèles pour la compréhension de ce qui s'est passé sur les 150 dernières années. On peut aller plus loin, et je reviens à cette figure que je vous ai montrée au début. Hein, et on peut simuler, étant donné des hypothèses sur les conditions aux limites et les forçages donnés au modèle, le climat de l'Éocène, du début de l'Éocène, le climat du Pliocène moyen, et puis on peut se permettre d'aller regarder ce qui se passe dans le futur en fonction de scénarios socio-économiques différents, puisqu'on est bien incapable, nous, de savoir exactement ce que l'ensemble des pays de la planète va émettre en tant que gaz à effet de serre, aérosol, et aussi faire en termes d'utilisation des sols. Donc pour les climats futurs, la seule solution pour anticiper ces climats futurs, c'est vraiment de travailler avec des scénarios socio-économiques qui nous sont donnés par des spécialistes des sciences humaines et sociales et en économie pour anticiper ce futur. C'est futur. Alors, ça m'amène à... Donc, on parle d'anticipation, et puis vous voyez ici un scénario, finalement, où on a réussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario où on a continué à émettre. Donc, on voit très bien l'effet de l'atténuation du changement climatique. Donc, le fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on appelle ça l'atténuation, en anglais mitigation. On voit ici, nos modèles sont suffisamment pertinents pour montrer l'effet de cette atténuation. Et puis, le graphe précédent montrait bien l'impact des gaz à effet de serre ici. En revanche, donc ces figures-là, qui sont en termes de température toujours en anomalie par rapport à la référence, peuvent soulever beaucoup de questions en termes d'adaptation au changement climatique. Et là, je ne vous montre que les températures, je vais montrer un petit peu plus tard d'autres paramètres. Donc, il est naturel de penser qu'on peut utiliser ces résultats de modèle aussi pour anticiper le changement climatique futur et s'adapter au changement climatique avant qu'on en ait trop de conséquences. Et ça m'amène à la dernière page de mon introduction qui était assez longue, comme vous pouvez le voir, c'est que face au changement climatique, on a de plus en plus de questions de la société. Donc notre métier de développeur de modèles de climat, qui était essentiellement pour comprendre ce qui se passait, commencer à anticiper le futur, en fait, on fait face en ce moment, nous, modélisateurs du climat, à des demandes de plus en plus pressantes de parties prenantes très variées, donc des gouvernements, des autorités locales, des industries, des industriels, des ONG, des demandes d'informations pour la prise de décision face au changement climatique et à ses impacts. Et de quoi est-ce qu'on parle ici, hein ? C'est de l'adaptation, par exemple. Donc, les assurances nous demandent des choses, des éléments sur le futur des événements extrêmes qui ont des impacts pour eux, pour leurs activités économiques. Les producteurs d'énergie, que ce soit renouvelables ou non renouvelables, nous demandent des informations à la fois sur les précipitations s'il s'agit de barrages ou sur les tempêtes s'il s'agit de transport d'énergie. Les agriculteurs vont vouloir savoir si on aura quand même des vagues de froid au moment où les vignes, par exemple, ici, ont déjà commencé à mettre leurs feuilles. Évidemment, on a des demandes sur la santé, on a des demandes sur l'aménagement du territoire, en particulier aux côtes. Donc, on a des demandes extrêmement différentes en termes d'échelle, qui peut être une échelle très locale ou une échelle régionale, une échelle temporelle aussi qui peut être très différente. Quand on imagine des infrastructures qui vont durer plus que 100 ans, ce n'est pas du tout les mêmes questions que pour des infrastructures qui durent moins de temps ou des personnes qui veulent avoir des informations quasiment tout de suite pour commencer leurs travaux. Et puis, on a des demandes qui sont plus sectorielles ou des demandes qui sont plus territoriales. Et surtout, on a des demandes pas seulement en termes de données, mais surtout en termes d'expertise et d'informations qui soit adapté à chaque cas. Donc c'est assez vertigineux pour nous. Pour vous donner une idée, dans le groupe de modélisation que je co-dirige, on est environ 200. Et, par contre, il y a beaucoup plus de gens qui posent des questions. Ce qui est bien naturel. Hein. Donc un exemple récent, hein, le ministère de la Transition écologique a lancé sa consultation sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Vous avez peut-être entendu parler de cette France à 4 degrés, autour de plusieurs axes, protéger la population, assurer la résilience des territoires, s'adapter, protéger notre patrimoine et mobiliser nos forces vives. Donc, vous pouvez aller voir, c'est très intéressant, c'est en consultation, ça pose évidemment la question pour nous sur les modèles qu'on doit développer pour répondre à ces demandes, qui ne sont pas tout à fait, qui vont plus loin que les modèles qu'on a développés pour comprendre le système climatique. Alors ces modèles-là, donc je vous ai parlé un peu des fondements, je vais aller un petit peu plus loin dans la description des modèles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on décrivait l'atmosphère. Ici, je m'intéresserai qu'à l'atmosphère. On décrit l'atmosphère sous forme de cubes pour calculer la circulation atmosphérique. Donc, chaque cube en ce moment fait 100 à 200 km en dimension spatiale horizontale. Et puis, le maillage vertical est évidemment plus faible. Dans chaque case, on doit représenter l'impact des nuages qui ne font pas 100 à 200 km, ils sont beaucoup plus petits. Hein, donc, et ça, en fait, on le fait à travers ce qu'on appelle des paramétrisations. Donc, on représente non pas le nuage lui-même, on représente l'effet du nuage sur le rayonnement. Et c'est la même chose pour ce qui est des échanges d'énergie et d'eau en surface. Pour tous les phénomènes petite échelle, on doit paramétrer ces phénomènes physiques ou biogéochimiques, si on veut inclure le cycle du carbone. Et donc, un modèle c'est non seulement la représentation des équations de la dynamique des fluides sur une grille, mais aussi l'ensemble des paramétrisations des phénomènes sous maille. Et ce qui fait la différence entre tous les modèles au niveau mondial, c'est non seulement les choix de discrétisation, mais les choix qui sont faits en termes de paramétrisation d'un modèle à l'autre. Donc ça, c'est véritablement un gros travail de développement de modèles, de développer toutes ces paramétrisations pour que les modèles donnent des résultats qui soient cohérents et satisfaisants. Alors, à quoi ça ressemble un modèle aujourd'hui, nos modèles aujourd'hui? Donc ici, je prends le modèle de l'IPSL, donc on a un modèle d'atmosphère couplé à un modèle d'océan. Ce modèle d'océan contient aussi une représentation de la biogéochimie. Nous avons aussi un modèle de surface continentale qui s'appelle Orchidée, donc un modèle d'atmosphère, donc le système climatique est représenté par l'atmosphère. Ici, on a la chimie, la surface continentale et l'océan en tant qu'océan physique et aussi en tant qu'océan biogéochimique. Et puis, les calottes, la banquise ici, et les calottes glaciaires sont en train d'être couplées. Donc, ces composantes-là se parlent à travers des coupleurs et toutes ces composantes-là communiquent avec un serveur d'entrée-sortie pour qu'on puisse récupérer les résultats. Chaque code de calcul ici, c'est plusieurs centaines de milliers de lignes de code. Donc c'est le résultat d'un travail collectif au fil des années, des groupes de modélisation, des groupes de développement. Et ce... Ah, flûte. C'est ma... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça y est, j'ai appuyé sur mon mauvais bouton. Ce modèle-là... tourne sur les supercalculateurs. Donc on utilise deux supercalculateurs pour notre modèle, un supercalculateur à l'IDRIS sur le campus de Paris-Saclay et le supercalculateur du TGCC qui s'appelle en ce moment Joliot-Curie. Ces supercalculateurs assemblent des dizaines de milliers de petits ordinateurs qu'on appelle CPU, Central Processing Unit. Alors, vous voyez ici qu'on a différents métiers dans la modélisation du climat. Il y a le développement de la théorie, il y a l'écriture de la théorie sous forme d'équations qui peuvent être résolues numériquement, il y a le calcul scientifique, et puis il y a la description des processus. Et tout ça se parle pour être utilisé dans les modèles de climat. Et donc, on fait appel à ces différents métiers dans nos groupes de modélisation. Donc une fois qu'on a un modèle qui est, je vous le rappelle, basé sur la physique, modèle caractérisé par les composantes qu'il contient, les équations qu'on a utilisées, leur discrétisation sur une grille, les paramétrisations et les paramètres utilisés dans cette paramétrisation, eh ben on peut envisager de le faire tourner. Comment est-ce qu'on obtient le résultat que je vous ai montré sur les simulations passées ou futures? Ben, il faut donner au modèle des informations. On va donner des informations sur ce qu'on appelle les conditions aux limites du système, la bathymétrie, la topographie, la disposition des continents et des océans, ça fait partie des conditions limites. On donne aussi au modèle des forçages, en particulier la composition de l'atmosphère ou les émissions en gaz à effet de serre, les paramètres qui décrivent l'orbite terrestre et son obliquité, qui contrôlent l'énergie entrante du système climatique. On peut aussi ajouter des forçages en termes de volcanisme, etc. etc. Donc ça, c'est ce qui constitue... On ne peut pas avoir de simulation sans avoir un modèle et ses conditions et ses forçages qui ont été utilisés pour le faire tourner. Et pour le futur, évidemment, ces forçages sont donnés par des scénarios qui sont des scénarios socio-économiques. Donc une fois que vous avez le modèle et les conditions limites, vous avez des résultats qui sont analysés par des experts en sciences du climat pour l'étude de processus, la comparaison aux observations, etc. Mais qui sont aussi analysés par de nombreux autres utilisateurs non-experts de modélisation, mais qui ont des intérêts pour les impacts des changements climatiques passés, actuels et futurs. Il faut toujours se rappeler que les résultats dépendent du type de modèle et des forçages utilisés. Alors, un exemple qui est important pour les publications du GIEC et pour l'adaptation au changement climatique, c'est les exercices qu'on fait régulièrement en amont des rapports du GIEC, qui s'appellent les exercices CEMIP. Je n'ai pas donné l'acronyme, CEMIP, c'est Coupled Model Intercomparison Project. Tous les groupes de modélisation à l'échelle mondiale font les mêmes exercices pour pouvoir, se font les mêmes simulations avec chacune avec leur modèle pour obtenir ces fameuses enveloppes de résultats enveloppes de résultats pour chaque scénario ou forçage historique. Il y a aussi le pendant de CEMIP pour les climats du passé qui s'appelle PEMIP, dont on s'occupe au laboratoire. Donc l'exercice CEMIP, en tout, ça représente un énorme effort de calcul pour le groupe de l'IPSL pour le dernier exercice qui a mené au dernier rapport de l'IPCC. On a utilisé 300 millions d'heures de calcul, une grande quantité de stockage, 14 pétaoctets. Et puis, la base de données, elle n'est pas gardée pour nous, elle est distribuée à l'échelle mondiale pour les analyses à travers le globe. Elle est distribuée gratuitement. Et il y a quelques années, on avait déjà 20 000 utilisateurs de nos données. Donc, un effort collectif pour le collectif. Et on essaye d'être le plus transparent possible. Un exemple de résultat, ici vous avez le résultat de 30 simulations historiques. Donc vous voyez ici la variabilité interannuelle en termes de température moyenne globale, elle est quand même importante. Vous avez les observations en noir par-dessus, et puis vous avez trois scénarios ici. Et ce qui tourne ici, c'est les résultats à la fin du scénario le plus fort, ici, projeté sur la Terre. Et vous voyez l'impact de la variabilité naturelle du climat, le fait que pour certaines simulations, il fait chaud en Europe, pour d'autres, il va faire chaud ici, plutôt sur l'Amérique du Nord, etc. On peut visualiser ici l'impact de la variabilité du climat. Alors, on vous a beaucoup parlé de température jusqu'ici, donc j'ai essayé de rajouter d'autres résultats, puisque nos modèles représentent aussi l'humidité, les vents, la couverture de glace. Donc ici, je vous mets la figure de l'IPCC qui résume les résultats de tous les modèles, pas seulement le modèle de l'IPSL bien évidemment, mais tous les modèles de climat, à la fois en termes de température de surface, donc on retrouve ici nos enveloppes, le passé, le futur, et puis les enveloppes pour les différents scénarios. On a aussi le réchauffement de l'océan, donc ici c'est le contenu thermique de l'océan, et vous voyez à quel point il se réchauffe, et puis vous avez d'autres grandeurs qui sont calculées également par les modèles, comme ici, la banquise arctique à son minimum. Alors vous voyez la grande variabilité de cette variable, mais le fait qu'elle décroît est très clair pour tous les scénarios, et pour certains scénarios, on arrive à des situations où on n'a plus de banquise en Arctique en été. C'est un phénomène qui en fait s'accélère actuellement, puisque on constate une diminution très forte de la banquise arctique ces dernières années. Et puis vous voyez aussi un résultat ici en termes de précipitations globales sur les continents, avec une augmentation de ces précipitations qu'on comprend assez bien physiquement parce qu'en fait la quantité d'humidité dans l'air augmente avec la température, selon la relation de Clausius-Clapeyron. Et donc quand on moyenne globalement toutes les précipitations, on comprend très bien que ça augmente. Par contre, on a une distribution spatiale qui change. Et je vous invite, si vous voulez regarder un peu plus loin les résultats des modèles qui sont utilisés dans le rapport du GIEC, à consulter l'atlas interactif du dernier rapport du GIEC, donc à cette adresse ici. Vous pouvez faire les cartes que vous voulez, je pense une vingtaine ou une trentaine de variables différentes, pour des périodes différentes, par rapport à des références différentes. Là, je vous ai mis juste un exemple, c'est le changement de température moyen pour un réchauffement de 2 degrés, dans le scénario le plus fort, réchauffement de 2 degrés par rapport à la référence 1850-1900. Il y a 34 modèles, donc ça fait la moyenne de 34 modèles ici, et vous voyez en hachuré les endroits où on a peu d'accord entre les modèles et ce qui n'est pas assuré, il y a beaucoup d'accords accord entre les modèles, et vous voyez qu'en fait, sur l'ensemble de la Terre, on a un accord sur ce réchauffement et sur ce réchauffement. Si vous regardez les précipitations, vous avez quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez que les zones de désaccord sont plus importantes, en particulier parce que les précipitations, il y a des zones où elles augmentent énormément. Alors ici, on est en changement, donc on est en pourcentage par rapport à la référence. Et vous voyez des zones comme les hautes latitudes et puis certaines zones subtropicales où la précipitation augmente énormément et puis d'autres zones où elle diminue énormément, donc il y a des assèchements. Et en particulier la Méditerranée, en fait, on a un assèchement qui est trouvé par quasiment tous les modèles. Donc ça, vous pouvez aller explorer en fait ces résultats. Alors ces résultats sont donnés par des modèles qui sont à échelle 100 km Donc chaque pixel fait 100 km. Or, pour l'adaptation, on doit souvent aller à échelle beaucoup plus fine. Et donc, je vais vous montrer ici comment on fait pour l'instant pour aller à des échelles beaucoup plus fines. On utilise des modèles régionaux qui sont imbriqués, donc qui utilisent au bord des informations des modèles globaux et qui sont, eux, à beaucoup plus fine échelle. En ce moment, Météo France va à 3 km, si mes informations sont bonnes. Et on peut introduire des processus qui sont spécifiques aux échelles plus fines. On peut inclure des représentations de la topographie qui sont beaucoup plus fines. Et ça, c'est un autre exercice. Donc, je vous ai parlé d'un exercice, l'exercice SEMIP pour les modèles globaux. Les modèles régionaux sont, eux aussi, comparés en vue des rapports du GIEC dans l'exercice qui s'appelle l'exercice CORDEX. Alors, ici, on utilise un modèle dynamique, donc on recalcule les vents, les températures, l'humidité, etc. On a aussi des modèles qui sont statistiques, j'ai oublié de changer ici le titre, qui apprennent des liens grande échelle, petite échelle, par des méthodes statistiques et qui appliquent des méthodes de type deep learning ou machine learning. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ces méthodes de descente d'échelle peuvent être associées aussi à des corrections du modèle global qui sont parfois nécessaires puisque les modèles ne sont pas toujours parfaits. Alors, pour faire un petit résumé de cette partie, donc je vous ai décrit jusque-là pour les modèles globaux des modèles qui sont basés sur une connaissance de la physique et de la biogéochimie, dans lesquels on est obligé d'inclure des paramétrisations pour tout ce qui est la représentation des phénomènes sous maille. Et ces modèles, on les utilise parfois conjointement à des modèles régionaux pour aller vers des échelles plus fines. On les utilise pour comprendre les climats actuels et passés et confronter cette compréhension aux observations. Et on les utilise aussi pour prévoir les possibles climats futurs et calculer les impacts. Et donc ça, c'est vraiment notre environnement interdisciplinaire de modélisation, puisque quand il faut... Donc il faut non seulement avoir des spécialistes de processus physiques ou biogéochimiques, mais aussi des spécialistes de méthodes numériques, d'informatique, calcul haute performance. Et puis, pour ce qui est de comprendre les questions de la société vis-à-vis du changement climatique à venir, il nous faut travailler avec des spécialistes de sciences humaines et sociales. Et également, pour comparer aux observations, il nous faut aussi discuter avec nos collègues qui sont spécialistes des méthodes d'observation. Donc ça, c'est notre environnement, et notre environnement est en train de changer. Il y a des avancées technologiques et des demandes sociétales qui nous poussent à changer nos approches. Et donc je vais parler un peu des nouveaux supercalculateurs, des opportunités qui sont liées aux méthodes d'intelligence artificielle, et puis des demandes sociétales. Donc les supercalculateurs... Actuellement, je vous ai dit, on tourne sur des supercalculateurs qui ont des dizaines de milliers de CPU, de Central Processing Units. Globalement, grossièrement, si je voulais décrire ça, c'est comme si on mettait plein de PC les uns à côté des autres. Et alors, il y a besoin de beaucoup d'efficacité énergétique et de très bonnes connexions entre ces unités. Mais ces unités sont capables de faire tout type de tâches. La prochaine génération de calculateurs inclura aussi ce qu'on appelle des GPU, pour Graphics Processing Units, ce qui sont les parties de l'ordinateur qui, par exemple, font l'interface graphique, et c'est particulièrement utilisé, par exemple, pour les jeux vidéo, pour que ça aille particulièrement vite pour ce qui est écran. Et donc, la prochaine génération des calculateurs aura beaucoup de GPU qui sont beaucoup moins chers et beaucoup moins gourmands en temps de calcul, en plus de quelques CPU pour faire tourner les GPU. Et ça implique un gros changement dans la façon dont on code nos modèles. Et on aura accès à plus de puissance de calcul, mais on doit réécrire une grande partie de nos codes. Alors, il y a quelque chose qui est derrière aussi, cette adoption du GPU, c'est qu'il est adapté au calcul massivement parallèle, c'est qu'on calcule tout en même temps, on fait beaucoup de calculs en parallèle, et aux algorithmes d'intelligence artificielle. Et bien sûr, vous savez qu'il y a énormément d'applications d'intelligence artificielle en ce moment dans nos vies. Hein. Et donc la poussée technologique, elle va vers ces outils qui sont adaptés aux algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc nous devons adapter nos codes et nos usages à cette nouvelle donnée d'arriver des massifs des GPU, changement d'architecture que je symbolise souvent comme ça, et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle elle-même et de ses techniques qu'on utilisait pour la descente d'échelle, mais on n'utilisait pas énormément pour les modèles physiques du climat. Alors, pour les non-initiés sur l'intelligence artificielle, je vais faire une très très brève introduction. Les méthodes d'intelligence artificielle, elles font des relations en fait entre des variables d'intérêt, ce que vous voulez avoir à la fin, la température à la surface de la Terre, le nombre de jours de pluie en France, ce que vous voulez, à des connaissances préalables, des observations, des résultats de modèles de climat. En fait, elles vont tirer ces variables-là à partir d'énormes bases de données. Et donc la donnée va devenir un enjeu énorme dans ces nouvelles techniques. Et le lien se fait ici. Bon, ici, j'ai juste schématisé un réseau de neurones. Il y en a plein de différents. Il y a plein de techniques différentes pour faire cette variation. C'est des très, très grosses méthodes statistiques. Ici, vous perdez la connaissance physique, a priori. Donc, il faut être vraiment sûr de son coup. Et puis, il faut vraiment vérifier ce que les modèles donnent avant de prévoir notre climat avec. Alors, il y a des tentatives d'inclure de la physique quand même dans la statistique. Ça, c'est vraiment de la recherche en cours. Mais l'intelligence artificielle toute seule, elle n'a pas de cette connaissance-là préalable. En tout cas, pour ce qui est machine learning et deep learning. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser quand même, tirer avantage de l'arrivée de ces méthodes ? On pourrait gagner en temps de calcul. J'ai oublié de vous dire le temps de calcul. En calcul, on fait à peu près l'équivalent de 10 années de situations météorologiques qui se suivent en un jour de temps de calcul. Donc pour faire 100 ans, il faut 10 jours en ce moment. On a parfois un modèle plus rapide qui fait 100 ans en 10 jours, mais au prix d'une résolution plus faible. Les Anglais, avec leur modèle standard en ce moment, ils font plutôt 3 ans par jour. Donc vous voyez que pour toutes les simulations de l'IPCC, ça fait énormément de temps humain aussi. Donc si on arrivait à utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour accélérer nos modèles, ce serait intéressant. Pour faire beaucoup de simulations, pour faire des ensembles de simulations, élargir cet éventail de situations extrêmes, ce serait intéressant. Pour accélérer le modèle, les équilibrer plus rapidement, ce serait intéressant. Peut-être pour représenter un processus coûteux en temps de calcul. Dans les processus coûteux en temps de calcul, dans les modèles, il y a par exemple le rayonnement, ou bien pour la descente d'échelle, ce qu'on fait déjà. Mais on pourrait imaginer des allers-retours avec la fine échelle pour des états particuliers, en particulier pour le couplage aux calottes de glace. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement ? Donc ça, c'est un champ qui se développe extrêmement vite, et en particulier avec les grandes entreprises de tech qui ont dit, ils ont commencé par la météo. Ils ont dit, nous, on peut calculer la météo mieux que les modèles de météo basés sur la physique. Et en fait, ils l'ont fait. Alors, attention, ils avaient comme base de données les bases de données, en particulier du Centre européen de prédiction à moyen terme. Donc, ils avaient toutes les données qui étaient mises à leur disposition. Et maintenant, et en fait, ça a été assez probant, suffisamment probant pour que le Centre européen, si vous allez sur leur site, Centre européen de prédiction du temps à moyen terme, eh ben, vous voyez maintenant les prévisions qui sont basées sur l'IA, qui sont obtenues plus rapidement. Qui ont une très bonne fiabilité. Alors pour la météo, on peut vérifier assez rapidement le résultat des modèles. Pour le climat, c'est une autre histoire. Donc le défi, c'est de passer aux simulations climatiques et pas seulement météorologiques, et puis d'avoir des méthodes d'évaluation des résultats, en particulier pour des climats très différents de l'actuel, parce que tout ce qui est apprentissage est relativement bon pour la base de données initiale, mais dès qu'on sort de la base de données initiale, les résultats ne sont pas garantis. Donc nous, nous sommes ouverts à ce type de démarche, mais on fait très attention au fait que ces modèles soient évalués pour des climats très différents de l'actuel. Ce qu'on fait aussi d'ailleurs pour les modèles physiques, hein, bien sûr. Et puis, la constitution de bases de données pour cet apprentissage, ça va devenir un enjeu crucial. Aussi bien que la constitution de bases de données, hein, pour d'autres domaines d'intelligence artificielle. Alors, Donc voilà, on est arrivé à ce point-là, demande sociétale grandissante, arrivée de nouvelles technologies. Et donc, on a fait un état des lieux, il y a quelques années, avec nos collègues de Météo France et de l'Institut de géophysique de l'environnement à Grenoble. Et on est arrivé à proposer un projet de recherche qui soit d'envergure, qui se définit par les besoins et les défis suivants. Du côté des modèles, le défi, c'est d'améliorer les connaissances et les outils et les processus. On doit toujours avancer sur cette connaissance de manière à fournir les meilleures informations, donc c'est ce qu'on inclut dans les modèles, hein, de manière à fournir les meilleures informations possibles pour la prise de décision. Donc avancer sur la représentation du climat et de son évolution, y compris avec des méthodes d'intelligence artificielle, pour donner les meilleures informations possibles à la société, au sens large. On a besoin aussi de définir ces informations climatiques qui sont exploitables par les parties prenantes et que les experts sur le climat peuvent fournir. Parfois, on n'est pas en capacité de fournir là maintenant, tout de suite, ce que les parties prenantes veulent. Par exemple, c'est très difficile aujourd'hui de fournir des indications sur les orages dans 50 ans, dans certains endroits. Et donc, pour les assureurs, ça c'est une cause de dommage pour laquelle ils seraient intéressés, mais pour l'instant on ne sait pas faire et donc on doit développer avec eux ce qui répond à leurs besoins. Donc ça c'est pas si facile que ça, hein, ça demande co-construction entre ce qu'on sait faire et ce qui est attendu. On doit avancer en particulier sur ces questions-là, mais aussi sur la science fondamentale. Et puis les modèles, j'ai oublié de le dire, hein, ont commencé à être développés dans les années 70-80. On arrive à la première. Il faut former la prochaine génération de professionnels en sciences du climat pour le développement des modèles et pour les services climatiques, pour assurer la durabilité de l'écosystème sur les connaissances du climat et du changement climatique et de ses impacts. Et donc, j'aurai une slide sur le programme que je co-dirige, qui est un programme de recherche qui est soutenu par le programme France 2030. Donc ce programme de recherche s'appelle Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques, donc TRAX. On a donné le titre avant de savoir que le ministère de l'écologie parlerait de la TRAC pour la trajectoire d'adaptation au changement climatique. C'était tout à fait fortuit en fait. Qu'est-ce que TRAX ? Eh bien, TRAX s'attaque au défi que je vous ai juste montré. Donc TRAX veut tenter de créer un écosystème qui soit plus large. Donc autour de la modélisation du climat, qui soit non seulement un écosystème où on discute des bases scientifiques et robustes pour la modélisation du climat, mais qui soit aussi un écosystème où on connaisse les besoins et on répond aux besoins de certains utilisateurs pour commencer à avoir des services climatiques plus étendus que ce qui existe actuellement. Il en existe quelques-uns, bien sûr, mais qu'on puisse répondre plus aux besoins de la société et surtout établir une relation de confiance entre les parties prenantes et les modélisateurs de climat qui donne l'information climatique. C'est un programme qui est un effort sans précédent dans la modélisation du climat à l'échelle nationale. Et donc là, aujourd'hui, tous les projets qui font partie de ce programme sont lancés et donc on attend de voir s'être développé. Et peut-être qu'un jour, je vous donnerai un séminaire sur ce qui se sera fait dans ce programme. En guise de conclusion, donc, je vous ai parlé de modèles de climat qui sont basés sur nos connaissances physiques et biogéochimiques. Ça, ce sont vraiment les modèles qu'on utilise actuellement. Ces modèles, moi, je dis souvent que c'est un peu un résumé des connaissances sur le climat, des connaissances qu'on pense importantes pour être mises dans un modèle de climat pour prévoir son évolution ou comprendre ses évolutions passées. Alors, c'est vrai que c'est un résumé, mais il y a aussi la contrainte technique qui fait qu'on doit choisir la résolution, le nombre de processus qu'on veut représenter, puisqu'on est à la limite des capacités des supercalculateurs. On obtient toujours un éventail de résultats. Cet éventail, il est donc pour un forçage donné, on va obtenir un éventail de résultats. En particulier pour le futur, hein, donc les résultats sont liés au scénario socio-économique, ça c'est externe au modèle, mais aussi à la variabilité, l'éventail des résultats est aussi lié à la variabilité naturelle, aux incertitudes sur les paramètres des modèles, et donc c'est pour ça que vous avez cette enveloppe. Hein, et je pense qu'il faut insister là-dessus, cette enveloppe représente aussi la limite, l'étendue de nos connaissances ou l'imperfection de nos connaissances, et c'est important de le dire, mais ça représente donc non seulement ça, mais la variabilité climatique et les extrêmes. On a des connaissances suffisantes pour affirmer l'impact anthropique sur l'évolution du climat sur la période historique. Je vous l'ai montré au début, je pense que c'est un résultat qui est très important pour affirmer la confiance qu'on peut avoir dans les modèles. On a énormément de travail à faire, donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que on peut affirmer qu'atténuer le changement climatique, c'est pas vain, c'est porteur de solutions, mais on a beaucoup de travail à faire pour développer nos modèles vers les problématiques d'adaptation, pour les problématiques d'adaptation en lien avec les questions sociétales. Et les défis sont aussi liés à la réécriture de nos modèles pour les nouvelles architectures et à la révolution liée à l'intelligence artificielle qui arrive de manière très très brutale. Voilà, 11h58.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.